faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Le mur de Berlin-Est est, ce soir, une masse de béton couverte de graffitis et sur laquelle des milliers de jeunes berlinois de l'Ouest sont juchés. Malgré les injonctions des Vopos, les jeunes Allemands regardent Hilar, porte de Brandebourg, leurs voisins de Berlin-Est franchir tranquillement le Checkpoint Charlie comme une vulgaire frontière régionale. Nous sommes le 10 novembre 1989. Il y a 16 ans, John Kennedy disait à cet endroit dans un allemand approximatif « Ich bin ein Berliner ».
Ce week-end, je pense que vous commencez à le savoir, ce sont donc les 30 ans de la chute du mur de Berlin, suivi presque un an plus tard, le 3 octobre 1990, par la réunification de la nation allemande. Mais on oublie souvent de dire combien le sport fut un enjeu de première ligne dans la concrétisation de ces retrouvailles complexes, car il a fallu fusionner au plus vite les différentes équipes de la RFA et de la RDA. Ainsi donc, ce sont de jeunes champions et championnes, de jeunes adultes, nés dans les années 70, qui ont dû essuyer les plâtres de cette reconstruction au cœur de l'Europe. Une histoire passionnante. Et alors ce soir au micro d'Inter, une ancienne championne du monde junior d'aviron, oui, née ouest allemande, elle appartient à l'une des toutes premières délégations sportives de l'Allemagne réunifiée. C'est à l'été 1991, elle vient d'en faire un roman graphique intense et très réussi, intitulé « Dans le même bateau ». C'est disponible aux éditions Futuropolis. Wiebke Petersen, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Et soyez la bienvenue.
Merci.
C'est un plaisir. Et pour vous accompagner ce soir, un historien que nous apprécions beaucoup. Il a travaillé sur l'ex-Allemagne de l'Est intensément. Il est l'auteur d'un livre à l'approche inédite et là aussi très intéressant, Urbex RDA, sur les traces enfouies de ce pays disparu, chez Albin Michel. Nicolas Offenstadt, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi.
Merci beaucoup.
Et voilà, vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, la réunification allemande, l'œil du tigre, c'est parti.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors cette semaine, on commence avec une petite initiation au sport qu'a pratiqué notre invitée allemande, l'aviron féminin, avec une présentation un peu particulière à la télévision française en 1961, année où le mur fut érigé à Berlin. Et c'est le tout jeune Thierry Roland, oui Thierry Roland, à l'époque il a 24 ans, qui s'est chargé d'expliquer au public français ce qu'est l'aviron pratiqué par des femmes. Donc en préambule à notre histoire du soir, voici l'aviron des 60s tel qu'il est conservé dans les coursives de l'INA.
Trois femmes dans un bateau, version 1961 et rectifiée pour les besoins de la cause du fameux roman de Jérôme K. Géraud. L'aviron, jadis moyen de transport, est devenu aujourd'hui, en même temps qu'un sport, le délassement idéal après une semaine passée soit au travail, soit chez soi, à s'occuper de tout. Quoi de plus agréable, en effet, qu'un dimanche au bord de l'eau, sur un bateau. Ici, c'est beaucoup plus sérieux. C'est le sport de l'aviron que nous découvrons grâce à la machine à ramer ou tank, sorte de boîte fixe dans l'eau ou sur les bords de l'eau, ici sur les bords de la Marne, où les débutantes et celles qui le sont moins peuvent s'entraîner à loisir. Comme pour tous les bateaux de compétition, le siège à glissière ou coulisse facilite le mouvement qui demande dans le cas présent une grande souplesse de poignet, contrairement à ce que l'on pense en effet, les bras travaillent autant que les jambes. Les bateaux de compétition, au nombre de 7, skiff, double scull, paire or, 2 barrés, 400 barreurs, 4 barrés et 8, les bateaux de compétition donc doivent être très légers. Les coques sont en général en fuseau d'acajou. Il s'agit ici d'un double scull, spécimen de bateau de nage en couple, c'est-à-dire de bateau où la rameuse, 2 pour le cas présent, où les rameuses donc ont un aviron pour chaque main. Cela semble très facile, mais détrompez-vous, il n'en est rien. Un seul faux mouvement dans la mise à l'eau et l'embarcation chavire.
Oh, tu sens bon. Mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clins. De toute façon, sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. 2 secondes.
Tu peux me créer.
Tu reviendras peut-être tâter le terrain, mais y'a pas de mi-temps, c'est juste la fin, lâche-moi la main. On verra bien si ça se dérobe ou si jamais il te retient, nous deux c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal, oh, que de bien, nous deux c'était rien. Nous deux c'était rien.
Rien, un titre signé Marie-Flore. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Au tout début des années 1980, la République démocratique allemande, la RDA, comptait un peu moins de 17 millions de citoyens. Pays modeste par le nombre de ses habitants. Erich Honecker, ancien résistant au nazisme, emprisonné par la Gestapo dès 1937, et qui dirigeait sa RDA d'une main de fer depuis 1971, était très conscient qu'il fallait saisir toutes les opportunités pour faire exister sa petite entité communiste sur la scène internationale. Et Honecker a très vite compris l'intérêt du sport dans l'infusion d'un soft power à la sauce soviétique. À tel point, vous allez l'entendre, qu'on a encore du mal à l'imaginer aujourd'hui.
Au moment de la chute du mur de Berlin, la RDA est la troisième nation sportive mondiale. 11 records du monde en natation, 13 en athlétisme, et 37 médailles d'or pour ses derniers Jeux Olympiques à Séoul. Comment un pays de 17 millions d'habitants peut-il avoir autant de performances? D'abord, il y avait la détection, systématique, scientifique, mathématique. 95% des enfants de 10 ans savent nager. Un citoyen sur 5 fait du sport en club, et il y a la police politique qui surveille tout cela. En 30 ans, les meilleurs athlètes de RDA dominent leur discipline en championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. À la détection s'ajoute alors un dopage organisé dès 1963. Pour rallier la jeunesse à la cause socialiste, le sport est indispensable. Plus de 4000 médailles raflées en 40 ans de compétition. C'était la RDA, c'était la victoire à tout prix.
Et oui. Et oui, à la fin des années 80, la RDA était, vous l'avez bien entendu, la troisième nation sportive au monde. Nicolas Hoffmannschaft, vous êtes historien, vous avez beaucoup travaillé sur l'ex-Allemagne de l'Est. Il faut commencer, Nicolas, par bien redire la place primordiale qu'occupe le sport en RDA. Erich Honecker en a fait un chantier politique de premier ordre.
Oui, tout à fait. Il y a une raison politique évidente, c'est qu'il y a un concurrent. Pour la RDA, c'est la République fédérale allemande, et notamment il y a eu très longtemps évidemment une lutte de reconnaissance. Donc un des moyens d'affirmer sur la scène internationale la RDA, surtout quand il y avait une doctrine qui empêchait cette reconnaissance, puisque l'Allemagne de l'Ouest essayait de la freiner par les autres pays. Donc du coup, un des moyens que la RDA s'affiche, s'affirme sur la scène internationale, c'était le sport. Donc c'est véritablement une diplomatie par le sport. Et pour s'afficher, il faut évidemment que ce sport soit performant, parce qu'il doit représenter la nation, alors qu'il ne peut pas la représenter toujours politiquement. Donc vous voyez, c'est un enjeu de première importance. Et donc du coup, il y a une vraie politique sportive, et tout un système qui est fait pour que le sport soit central dans cette affirmation et dans cette reconnaissance internationale de la nation.
Alors, Ebke Petersen, vous avez, vous, une histoire que je trouve passionnante, que vous venez de raconter chez Futuropolis, qui s'appelle « Dans le même bateau ». Vous êtes né ouest-allemand, en 73, si je ne dis pas de bêtises, donc vous aviez 16 ans en 1989.
Tout à fait.
Vous êtes aujourd'hui encore championne du monde d'aviron junior en 91. Vous avez appartenu à une des toutes premières délégations de l'Allemagne réunifiée, on va y revenir évidemment. Mais avant tout, Ebke, dans ces années-là, vous étiez déjà une sportive de haut niveau, de la RFA. Qu'est-ce que représentait pour vous en tant que sportive la RDA? Est-ce que vous aviez peur de ses adversaires? Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les aviez rencontrés? Quelle image vous aviez de la sportive de la RDA?
Alors au début, moi je les ai rencontrés très très tard, après la réunification. Donc la première rencontre a eu lieu en
91 à Cologne. Donc,
voilà, et avant on avait une peur bleue. C'était incroyable parce que c'était, on savait quand même, on connaissait un peu les pratiques en RDA.
Grande discipline.
Voilà, puis le dopage, puis ces internats de sport où...
Qu'on appelait les KJS, c'est ça? Voilà. C'était quoi les KJS?
Les KJS, c'était les Kinder- und Jugendsportschule, donc c'était des internats, des écoles sportives pour enfants et adolescents. Et voilà, donc on savait que ces jeunes filles et garçons s'entraînaient déjà en temps normal deux fois plus que nous. Et on avait bien sûr très très peur d'eux.
Oui, bien sûr, évidemment. On va revenir à cette rencontre finalement, puisque vous avez dû organiser une rencontre finalement dans des équipes nationales de la RFA et de la RDA. Nicolas, vous êtes vous l'auteur d'un livre passionnant également qui s'appelle Urbex RDA chez Albin Michel, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés, voilà, comme un archéologue, hein, sur des friches industrielles, sur des affiches, sur des dossiers perdus, etc. Vous avez fait un œuvre d'archéologue et d'historien en même temps, un livre passionnant. Est-ce qu'il y a des vestiges du sport, Nicolas Offenstadt, aujourd'hui en ex-Allemagne de l'Est? Et qu'est-ce qu'ils disent de la société est-allemande?
Oui, en fait, vous évoquiez ça en introduction, mais la réunification, comme dans tous les domaines, ou l'unification, ou l'entrée, l'adhésion de la RDA à la RFA, comme on dit parfois avec un peu de distance, c'est aussi marqué par de grandes difficultés dans certains sports pour que les choses puissent continuer. C'est le cas du football, c'est le cas d'autres sports. Et donc, il y a tout un ensemble d'institutions de la RDA qui sont apparues comme caduques, qui ne servaient plus à rien ou qui ont été abandonnées. Donc, on peut aussi faire de l'urbex, y compris à Berlin. Par exemple, il y a un lieu qui est génial, hein, c'est le Forum du Sport.
Urbex, ça veut dire exploration urbaine. Hein,
voilà,
il faut
le rappeler. Ouais. Donc l'exploration urbaine, c'est l'idée de pénétrer de manière illégale sur des sites abandonnés, vides ou délaissés par l'homme, et de les visiter sans les abîmer, sans but lucratif. Hein, l'urbex, c'est une visite de photographes, c'est une visite de gens qui ont un goût pour le patrimoine. Il ne s'agit pas ni de s'amuser avec des vestiges,
ou de piller,
ni de voler.
Voilà, exactement.
Voilà. Et donc, du coup, on peut faire cette urbex, hein, cette exploration urbaine à Berlin, puisque au cœur même, à Berlin-Weissensee, il y a un immense complexe sportif, un plus grand complexe d'Allemagne, qui a été construit d'ailleurs par la RDA, et aujourd'hui, dont toute une partie est à l'abandon. Il y avait évidemment des institutions sportives qui continuent à fonctionner, mais l'hôtel et le centre des congrès sont complètement abandonnés. On voit ça d'ailleurs de la rue, il suffit de passer en tram. Donc il y a encore des lieux sportifs qui sont oubliés. J'en ai vu d'autres ailleurs, à Francfort-sur-l'Oder, des vestiaires, où il y avait encore tous les ballons de foot.
Hein, ah oui.
Donc on peut encore se
mais
promener.
C'est fantomatique en fait.
Oui, on peut encore se promener. Si vous me permettez une seconde,
allez-y,
Philippe, je voulais dire sur ce que disait tout à l'heure Wiebke sur son rapport à l'Allemagne de l'Est, dans son très beau livre. Non, m'a passionné. Il y a un moment tout au début où justement elle introduit son rapport à l'Allemagne de l'Est et elle dit finalement, et ça m'a paru très juste de ce qu'on connaît de l'Allemagne de l'Ouest, elle disait « c'était tellement loin de nous tout ça », fait-elle dire à son héroïne. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une distance. Hein, c'est-à-dire pour beaucoup de jeunes de l'Ouest, bah, c'était un peu les bouseux, c'était un peu ceux qui avaient des soucis, c'était une vague province pas très, un peu triste, l'Allemagne de l'Est. Hein, et donc on le sent très bien dans son œuvre, hein, c'est ce côté très distant finalement. Pour un pays prospère, pour un pays où tout n'est pas si mal, hein, l'Allemagne de l'Est, ça faisait pas beaucoup envie, on s'y intéressait pas toujours.
D'ailleurs, Wiebke, vous racontez de manière assez drôle comment vous avez appris la chute du mur de Berlin, le 10 novembre 1989. Vous avez donc 16 ans, vous êtes adolescente, c'est un internat de jeune fille. Qui c'est qui vous apprend la chute du mur?
Alors, c'est une ancienne prof, notre prof principale des années collège, une bonne sœur.
Qui est une chanoinesse,
voilà,
de l'ordre Saint-Augustin.
Tout à fait. C'était l'enclos des pingouins. On était, c'était pas que des bonnes sœurs, mais celle-ci, elle nous a appris la grande nouvelle qu'on avait bien sûr loupée parce qu'on était tellement plus intéressés par les premiers émois amoureux
Ça, on le voit bien dans le livre.
Et vous l'avez on était tout à l'ouest aussi, mais vraiment tout à l'ouest
dans tous les sens du terme. Complètement à l'ouest.
Voilà, donc j'en ai un peu honte aujourd'hui, mais.
Mais non, parce qu'en fait, le récit raconte pourquoi c'est une adolescence, on vit sa vie.
Ah oui,
effectivement, comme dit Nicolas, c'est très loin, la RDA. Donc, on rate l'info. Puis là, mais cela dit, vous racontez aussi que vous participiez à des colis que vous envoyiez à la sœur de cette sœur chanoinesse. Racontez un peu rapidement ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez quand même au courant qu'elle avait une sœur qui était en RDA.
Alors, voilà, c'était sa cousine. Voilà, qui habitait à Dresde. Mmh. Et on envoyait tous les ans, à Noël, un colis. Tout le monde apportait des choses alimentaires ou cosmétiques ou des choses qu'on ne trouvait pas facilement à l'Est et qui étaient distribuées après par cette cousine. Et la petite particularité était que des colis collectifs étaient interdits. Donc, il fallait qu'il soit signé par une seule personne, la lettre qui allait être ouverte, bien sûr, avant d'arriver
à destination.
Mmh. Donc, il fallait écrire d'une main et pas signer tout le monde. Et voilà.
Philippe, je sais que vous avez lu le Urbex RDA de Nicolas et vous m'avez dit, il y a une chose qui m'a attrapé l'esprit. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a plusieurs choses. Oui. C'est vraiment un super livre. Il est très, très intéressant. Et en tant qu'Allemande, même de l'Ouest, j'ai une petite dimension en plus, la dimension émotionnelle et nostalgique. Et à un moment donné, dans ce livre, je tombe sur une photo de pochette de disque et une pochette de disque de Juliane Weading qui venait de Essen aussi, qui était dans le même enclos des pingouins, l'école réservée aux filles que moi. Et elle a une petite vingtaine d'années de plus que moi, donc elle n'était plus là. Mais nous avions une vieille prof d'éducation musicale, un dinosaure. Elle avait au moins 120 ans, je pense. et elle nous parlait souvent de Juliane Weading. Et voilà, donc cette photo m'a renvoyé 30 ans en arrière.
Nicolas.
Oui, c'est vrai qu'on trouve souvent dans ces lieux abandonnés, on trouve souvent des pochettes de disques ou des vieux disques, parce qu'évidemment, les 45 ou les 33 tours sont aujourd'hui très, très peu réutilisés. Donc, effectivement, c'est un témoin de l'époque et on peut retrouver toute la discographie qui était publiée en RDA dans les lieux abandonnés. Donc, c'est intéressant comme petit clin d'œil.
Vicque.
Et je voulais dire aussi que ce qui est formidable dans votre livre, c'est que on est interpellé par quelque chose, on lit un article ou un petit chapitre et vous renvoyez dans d'autres chapitres du livre. On n'est pas du tout obligé de le lire dans un sens linéaire, comme la plupart des livres, mais on peut se créer son propre sens de lecture.
Son propre itinéraire.
Voilà, et ça c'est très très intéressant dans ce livre aussi, parce qu'on on s'approprie comme ça... C'est très chouette.
Alors, Vibke, revenons à votre destin, à vous. Donc, vous apprenez évidemment que le mur est tombé le 10 novembre 1989. Et puis arrive la réunification, évidemment, le 3 octobre 1990. Et puis, donc, il va falloir fusionner les équipes sportives. Mmh. Et d'abord, il y a un championnat en Allemagne, donc à Cologne, qui est un championnat allemand, donc d'une Allemagne réunifiée, à la mi-avril 1991. Et donc là, vous êtes avec votre équipe d'aviron et vous allez devoir concourir avec, dans la même nation, des jeunes femmes qui arrivent de l'ex-Allemagne de l'Est. C'est votre premier contact avec ces jeunes femmes. Quels souvenirs vous en avez aujourd'hui, Vibke Petersen ?
Alors ça, c'est vrai que c'était un peu épique. On a vu ces jeunes débarquer en pyjama, parce qu'ils avaient une mode vestimentaire un peu particulière, surtout les sportifs. Ils avaient, on aurait dit, des baskets en carton, un petit peu, et des joggings en couleur lit de vin délavé. Et ils étaient juste immenses. On avait l'impression d'être face à des armoires. Et on avait très, très, très peur. Du coup, nous, on s'est dit, on ne va pas être les plus rapides, on va être les plus rigolotes. Et on a pris ça un peu... au grand désespoir de notre entraîneur.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser... Alors, précisons les choses. C'est pas déjà dans le même bateau encore, parce qu'on va y revenir dans la seconde partie, parce que vous êtes encore en concurrence. C'est des clubs qui sont en championnat allemand, qui vont donc rivaliser. Donc, vous n'êtes pas encore mélangés. Vous êtes dans une même compétition, côte à côte. Donc, c'est un premier contact. Après, viendra le temps de la fusion. On va y revenir tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le récit, Wiebke, c'est que, on pourrait penser que c'était très difficile. Ça ne l'a pas été facile, mais il y a une grande pudeur de part et d'autre. On sent que chez vous, comme chez elle, il y a une pudeur, on se respecte, on s'approche tout doucement, vous êtes très jeunes les uns les autres. Et donc, il y a un moment comme ça où on respecte un peu quand même les autres, on fait un peu attention.
Il y avait surtout beaucoup de tabous aussi, parce qu'on était dépassés par la situation, on ne savait absolument pas comment réagir. On n'aurait jamais posé des questions parce qu'on aurait eu trop peur de blesser ou de, on savait pas trop comment s'attaquer à ces autres Allemands qui
arrivaient. À ces retrouvailles particulières.
Ah oui. Mais ça s'est finalement fait assez naturellement parce que on a pris notre place, elles aussi, et voilà.
Nicolas, ce qui est intéressant dans ce que raconte Wiebke, c'est qu'en effet, on n'imagine pas forcément que la réunification est passée par ces jeunes gens. C'est-à-dire, alors, elle est passée par moult chemins, mais quand même, ces jeunes sportives et sportifs se sont retrouvés en première ligne à devoir à la fois fréquenter ces jeunes hommes et jeunes femmes qui arrivaient de l'Est, et puis après, il y a la fusion avec les équipes nationales. C'est passé par là, et on imagine bien que personne n'était préparé, Nicolas, à se rencontrer, finalement.
Non, personne n'était préparé, puisque d'une part, la chute du mur a été une grande surprise, déjà, et ensuite, la vitesse à laquelle l'Allemagne s'est réunifiée ou s'est unifiée a été aussi une grande surprise. Donc, effectivement, et d'ailleurs, quand vous lisez les témoignages d'autres sportifs, il y a aussi souvent cette idée, mais on savait pas quoi faire. On était devant une situation totalement inédite. Il fallait fusionner deux équipes, il fallait fusionner deux structures sportives, et donc c'était effectivement une grande surprise pour tout le monde. Alors ce qui est justement très intéressant dans le roman, c'est qu'à travers l'histoire personnelle que vous disiez, les premiers émois adolescents, l'histoire sportive, il y a plein d'histoires, des histoires amoureuses, il y a des histoires sportives, mais aussi l'histoire de l'unification à travers les jeunes. Ça, c'est passionnant, ce contact que vous incarnez. Moi, il y a plein de moments qui m'ont beaucoup intéressé, notamment lorsque ce jeune tout d'un coup se met à se remettre pour faire détendre l'atmosphère quand il met le maillot de la RDA, alors que tout ça est déjà
que j'ai récupéré.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est intéressant de dire qu'en fait, il vous l'a offert, le maillot de la RDA. Oui. Et d'ailleurs, c'est sur la couverture du livre. Voilà. Vous êtes avec votre coéquipière. Elle porte, elle, le maillot de la réunification, mais vous portez
avec
le maillot...
Avec le vilain aigle.
Ouais, voilà, on va en reparler.
Vous appeliez le vautour.
Le vautour. Voilà. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Mais vous aviez le maillot de la RDA sur les épaules, Wiebke, et c'était presque une sorte d'amusement, de main tendue. De rébellion. Ah oui, de rébellion. Une forme de rébellion. Nicolas.
Et du coup, ce qui est passionnant, c'est que vous montrez ce côté humain, c'est-à-dire que l'unification, comme toute rencontre, c'est des affaires où il faut que les gens trouvent un moyen, il y a une interaction, il faut faire avec les autres, même si ces autres ont des cultures différentes. Mais ce que vous montrez aussi, et c'est intéressant pour ça votre livre, c'est pour ça que je dis c'est une histoire d'unification, vous montrez aussi quand même la domination de l'Ouest sur l'Est, qui a été quand même assez systématique dans l'ensemble des institutions, et dans le sport, on y reviendra peut-être tout à l'heure aussi. Et vous donnez un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé, parce que j'en connais beaucoup, j'en ai étudié beaucoup, de ces formes d'absorption des institutions de la RDA par l'Allemagne de l'Ouest.
Elle est passionnante, celle-là.
Que, c'est aussi la manière de ramer
dans l'aviron
qui est imposé par l'Ouest. Oui. Donc, vous voyez, dans cette idée qu'en réalité, l'unification s'est toujours fait avec les systèmes de l'Ouest et qu'on a toujours un peu quand même écrasé les institutions de l'Est, vous avez un très bel exemple. Alors, vous nous expliquez en plus avec des dessins que en RFA, on rame la main droite dessous, en RDA, c'est la main droite dessus, et c'est le système de la RFA qui va s'imposer. Et donc, du coup, à travers cette image, vous avez aussi une image de tout le processus d'unification. Donc c'est pour ça que votre livre est assez passionnant, parce qu'à la fois la petite histoire de l'unification, aussi les véritables problèmes qui se sont posés à l'époque.
Et Nicolas, c'est pas juste un détail, parce que c'est un système de la RFA qui s'impose à la RDA sur le système des mains en dessous, mais c'est aussi une violence physique, parce que quand on n'a pas été habitué à ramer comme ça, on s'abîme beaucoup les mains.
Wiebke. Ah oui, on s'abîme les mains, parce que surtout à l'effort, quand la fatigue arrive, les vieux automatismes reviennent et la main à laquelle on est habitué, elle passe forcément dessous.
Et là, on se prend un coup de rame et on a les phalanges en sang parce que ça fait très très mal, en effet. Ça fait très très mal. On va passer maintenant au chapitre 2 de notre discussion, dans le même bateau, c'est-à-dire l'unification des deux Allemagnes.
L'œil du tigre.
Comme disait l'autre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans exactement 4 heures et 54 minutes, le paysage européen se transformera. Aux 12 coups de minuit, l'Allemagne de l'Est aura cessé d'exister. Il n'y aura plus qu'une seule Allemagne, forte de 79 millions d'habitants. Renaissance d'une nation dont l'orgueilleux emblème, drapeau noir, rouge et or, flottera au cœur de Berlin, devant l'immeuble du Reichstag, l'ancien Parlement.
Philippe Collin, sur France Inter.
Alors, cette réunification allemande eut pour effet quasi immédiat, on l'a dit, de fusionner les équipes sportives de ces deux nations sœurs qui furent adversaires pendant 50 ans. Le sport était donc en première ligne de cette réunification, une affaire délicate où de jeunes champions et de jeunes championnes, issus de deux mondes totalement opposés, ont dû essuyer les plâtres de cette réunification avec toutes les tensions, les frustrations et les doutes qu'on imagine.
Tous les nageurs de l'Est sont officiellement passés à l'Ouest. C'est la raison pour laquelle Claude Aymar s'est rendu à Munich pour suivre les championnats d'Allemagne de natation. Claude.
Effectivement, des championnats qui se sont déroulés donc un mois après la réunification, un an jour pour jour après la chute du mur de Berlin, et surtout un mois et demi avant les prochains championnats du monde qui se déroulent à Perth, en Australie. Des championnats que les Allemands appréhendent peut-être un petit peu, car ils seront sans doute moins prolifiques que prévu. Tout simplement parce que la tension Est-Ouest existe toujours dans les équipes de natation.
À 25 ans, Frank Hofmeister est l'un des leaders du club de Wiesbaden, ex-Allemagne de l'Ouest. Pourtant, lui vient de l'Est. En 84, lors d'un meeting en Italie, il n'a pas rejoint son pays. Mais aujourd'hui, c'est son pays qui l'a rejoint, puisque le 3 octobre, Helmut Kohl et Lothar de Maizière ont entériné la réunification des deux Allemagnes. Moment historique, bien sûr, mais qui, une fois passé, va poser, sur le plan sportif, d'énormes problèmes.
Wiebke Petersen, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un très beau roman graphique bande dessinée, hein, Dans le même bateau, c'est le titre aux éditions Futuropolis, que vous signez sous le nom d'artiste Zelba, ça c'est important de le dire. Vous êtes témoin direct évidemment de cette réunification dans les toutes premières quasiment équipes nationales de l'Allemagne réunifiée. En 1991, à l'été, vous participez au championnat du monde junior en Espagne, et donc vous arrivez là-bas avec une équipe unifiée, garçons et filles, mais là il y a un grand mélange de ex-RFA, ex-RDA parmi les jeunes sportifs. Vous racontez une chose assez marrante, parce qu'on a l'âge de 18 ans, donc c'est l'âge de la chambre un petit peu, et une manière de s'acclimater, c'est de se moquer un peu des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment où les uns et les autres, avec beaucoup de bienveillance, on s'est un peu moqué des uns et des autres. Ça a été une manière peut-être, comme on chambre aujourd'hui encore au lycée, ça a été une manière de s'apprivoiser les uns les autres, non ?
Ah oui, c'est... alors on avait nos petites différences et c'est souvent ces petites différences qui font tout leur charme, notamment les dialectes.
Et
on
oui.
avait nous ça nous a fait beaucoup rire les dialectes de l'Est qu'on connaissait pas, on n'avait jamais
la Saxe notamment.
Ah oui, voilà, c'est juste pas de l'allemand. Enfin, si c'est de l'allemand,
bien mais
c'était
sûr,
tellement
pour vous, ça n'était pas
tellement ouais. Exotique que ça nous a beaucoup fait rire. Donc, on a fait répéter des phrases
où, à longueur de temps pour se moquer un peu.
Voilà. Hein, voilà. Alors, oui, pour si. Ça nous a fait rire.
Si, c'est si. Vrai. Oui, oui. Mais c'était une manière de sans doute de dépassionner un petit peu le moment. C'était une sorte de soupape, sans doute aussi de le rire sert à ça dans ces moments-là, j'imagine. Alors, avant les championnats du monde en Espagne, il y a une préparation. Wiebke, sur un grand lac du nord de l'Allemagne, le Ratzeburg, qui est donc un lac qui est limitrophe avec l'ex-RDA. Mmh. C'est un lac très en longueur, hein, qui va du sud au nord et qui est très assez fin, on va dire, mais très très long. Et vous entraîniez là-dessus, sur ce lac, et il y avait une limite, on va dire, septentrionale nord du lac, et il y avait un bâtiment étrange dans ce...
Même plusieurs.
C'était quoi ces bâtiments?
Ah ben, il y avait des miradors. Il y avait encore des miradors qui était sur la berge, parce que le lac a été une frontière naturelle avec la RDA le temps, enfin jusqu'en 90. Et c'est vrai que nous, les tours n'étaient plus habitées.
Oui.
Mais l'année d'avant, quand ma sœur Britta est allée
grande championne aussi.
S'entraîner sur ce même lac, il y avait encore des gardiens.
Dans les miradors.
Mmh. Et elles ont... C'était quand même déjà après la chute du mur, donc normalement, elles ont essayé de franchir donc la
limite, ouais.
Et tout de suite, un petit hors-bord leur a foncé dessus pour les renvoyer du bon côté
du
lac.
Évidemment.
Donc voilà, donc c'était très très impressionnant quand même
mais
de
là,
voir.
De la même manière, vous faites des vannes sur les miradors, comme pour un tout petit peu désacraliser. Vous utilisez le mot mirador que vous replacez dans des titres de films avec votre coéquipière et aussi ouest allemande pour un peu vous pas vous moquer, mais pour un peu détendre l'atmosphère. Vous faites mirador dans la brume.
Voilà, très
exact, exactement. Mais du coup, c'est assez précieux parce qu'il y a un humour qui est là qui vous sauve tous en fait, les uns les autres.
Oui.
Nicolas von Schatz, qui est, je rappelle, vous êtes historien donc, et grand travailleur sur l'ex-Allemagne de l'Est, il faut bien rappeler les choses. C'est-à-dire que depuis 1949, donc, la RDA est créée, d'un point de vue, on va dire, institutionnel, ils considèrent qu'ils sont la vraie Allemagne, qu'ils sont le pays de l'antifascisme. Donc on a inculqué ça à la population est-allemande et à ces jeunes sportifs dans les années 60-70. Donc j'imagine que pour ces gamins qui arrivent, Nicolas, dans ces équipes binationales, on a envie de dire, ça n'a pas dû être simple parce que autant en RFA, il y a une sorte de distance par rapport à la RDA, mais en RDA, c'était le pays de l'antifascisme, c'était eux, c'était la RDA, c'était pas la RFA.
Oui, je pense que c'était pas simple parce qu'il y avait non seulement effectivement tout la production idéologique, hein, mais il y avait aussi tout le système sportif qui était, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, extrêmement différent. Dans la formation, dans la conception du sport, dans l'organisation du sport. Donc tout ça a été effectivement très marqué. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez encore les résultats hein, dans les grandes compétitions dans les années, encore il y a quelques années, la différence Est-Ouest est encore marquée. Hein, c'est-à-dire que le système sportif ne s'est pas effacé avec l'unification. C'est-à-dire que vous voyez encore que dans les disciplines, qui est les disciplines reines, en RDA, ce sont plus des sportifs de l'Est qui, dans les années 2012-2015, par exemple, ont gagné plus de médailles. Donc, vous voyez, cette structure, c'est pas seulement dans les mentalités, c'est dans la réalité. C'est-à-dire que les habitudes, les infrastructures, la formation des entraîneurs fait que cette partition, elle est encore présente dans le sport aujourd'hui. Et ça, c'est quand même très marquant. Hein, donc, vous voyez, c'est pour ça qu'effectivement, ça a dû être dur, mais d'une certaine manière, ça continue à l'être. Je lisais, là, j'étais à Berlin pour les commémorations de la chute du mur, et donc, il y a eu pas mal de discussions, notamment autour de ce que vous évoquez, à savoir l'unification sportive. Et là, il y a un jeune sportif est-allemand qui est né en 1984, qui est un champion de lancer de disque. Donc, vous voyez, c'est plutôt un jeune. Lui, il n'a pas connu grand-chose de l'Allemagne de l'Est, même comme sportif. Et il dit encore aujourd'hui, hein, c'est un interview au journal de Berlin, le Berliner Zeitung, là, au moment de la chute du mur, il dit encore, toute cette affaire Est-Ouest, c'est encore un empêchement. Donc, vous voyez, là, on est en 2019. Il ne s'agit même pas des résultats d'il y a quelques années. Donc, vous voyez, ce que vous dites sur cette question qu'il y a quand même des formations, des structures, des rapports au sport différents, c'est des choses qui ne sont pas effacées.
Wiebke Petersen, un des vecteurs de la réunification sportive des équipes binationales, ça a été la tenue, l'uniforme. Alors, il faut bien comprendre que pour vous, Wiebke, cet été 1991, c'est votre première sélection en équipe nationale, donc vous allez devoir porter le maillot de l'équipe nationale d'Allemagne réunifiée. Il faut savoir que là encore, l'Ouest a un peu gagné, puisqu'il y avait déjà ce rapace sur les maillots ouest-allemands avant la chute du mur. Ça n'a pas été simple pour vous du tout d'enfiler ce maillot. Pour quelle raison, Wiebke Petersen?
Ben, il y avait cet aigle qui pour nous signifiait quand même encore ce passé noir de l'Allemagne.
Hitlérienne et nazie, évidemment.
Et voilà, c'était un tabou. L'aigle était tabou et le fait de devoir le porter sur la poitrine était insupportable.
Avec une Allemagne réunifiée, hein. Enfin, on pouvait avec une espèce d'angoisse de la grande Allemagne, on imagine une sorte de gêne en tout cas chez vous.
Mais l'aigle, il était déjà oui. Sur les maillots depuis toujours certainement et nous l'avons appelé le vautour parce que l'aigle, on pouvait même pas prononcer ce mot
qui voulait dire un peu facho du coup, hein, ce mot vautour, c'était une sorte de gimmick,
oui,
adolescent.
C'était vraiment pour exprimer notre malaise.
Et ce que vous racontez, c'est qu'en fait en face des sportifs est-allemands ont enfilé de manière plus simple le maillot en disant, écoute, c'est bon, voilà, on est là ensemble, on va l'enfiler, ce maillot. Et ça a été une manière aussi pour vous peut-être d'accepter que tout le monde porte ce maillot.
Oui, parce que c'est vrai que cet uniforme-là a du coup permis à ce que tous les sportifs de l'Ouest comme de l'Est se ressemblaient. Et ça a effacé un peu... Voilà, c'était fini, les sorties en pyjama.
Et oui, mais d'ailleurs, vous dites une chose très belle, page 140 du roman graphique, vous dites, nous avions mieux qu'un patriotisme écervelé, hein, en écho à ce maillot, nous avions la fougue d'un jeune couple, l'énergie nouvelle d'un pays malade, guéri d'une vieille blessure. Il faut quand même savoir, Wiebke, qu'il y a 14 équipes engagées dans ces championnats du monde en 1991, 13 équipes réunifiées vont avoir des médailles, dont 8 en or. Ça a été un moment de grande euphorie, j'imagine aussi, pour ces jeunes gens qui allaient autant gagner.
Ah oui, c'était de la folie. C'était un grand, grand moment incroyable. Et où quelque part, on s'est un petit peu réconcilié avec ce rapace sur la poitrine, parce que ça, il a, voilà, ça... C'était incroyable.
Mais oui, d'ailleurs, il est très présent. Nicolas. Il y a de très belles pages, très beaux dessins. Il y a des moments où la bande dessinée devient plus noire quand ce rapace est évoqué. Donc, du coup, il a un rôle très important, finalement. On sent cette ombre politique, en quelque sorte, qui plane bien au-delà de ce moment-là. Donc, il a vraiment, je trouve, une fonction très importante. Et du coup, c'est ce qui est aussi l'occasion pour vous de faire parler ces gens de la RDA. C'est ça que j'ai apprécié.
Oui, absolument,
c'est-à-dire
Nicolas.
Que vous n'êtes pas simplement raconté votre point de vue, vous essayez aussi de leur donner la parole. Et donc, il y a un moment, par exemple, qui m'a beaucoup intéressé. Vous discutez donc avec un garçon de l'équipe et puis vous essayez un peu d'évaluer vos deux histoires, de les mettre en parallèle. Et du coup, là aussi, vous le faites parler. Et il dit notamment, en tant que sportif, j'ai jamais manqué de rien. Et donc là, vous voyez, c'est une dimension aujourd'hui qu'on voit bien.
C'est-à-dire en tant que sportif de l'ex-RDA, évidemment.
Voilà. Et donc, du coup, on voit aussi cette dimension que les Allemands de l'Est aujourd'hui disent. Il y en a aussi, on pouvait être heureux. Hein. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Angela Merkel dans un entretien récent. On peut être heureux dans une dictature. Et donc, vous montrez aussi cet aspect, hein, pas seulement oppressif, mais aussi l'idée que les sportifs, pour certains d'entre eux, pouvaient être favorisés. Et donc, vous rigolez avec lui, et évidemment, avec ce cliché que les Allemands de l'Est n'avaient pas de bananes.
Oui.
Et vous dites, et des bananes, et oui, même des bananes. Et là, vous éclatez de rire tous les deux. Donc,
ça, c'est très grand symbole. La réunification,
la banane. Absolument. Nicolas, pour faire écho à ce qu'on disait sur les résurgences, ou finalement cette espèce de fantôme de la RDA, y compris dans le sport, parlons un peu de football, deux minutes. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la Bundesliga, qui est donc le championnat professionnel de football allemand, qui est très populaire en Allemagne, il y a 18 clubs, il ne reste qu'un club de l'ex-RDA, qui est le Red Bull Leipzig, qui est un club très impopulaire en Allemagne, parce qu'il n'a pas respecté une certaine tradition, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais au final, Nicolas, quand on est un citoyen de l'ex-RDA, on n'a pas de club de football à soutenir en Bundesliga. Ce qui est sans doute une grande frustration, une grande humiliation pour tous les supporters de l'ex-Allemagne de l'Est.
Absolument. Et cette humiliation, cette frustration, elle date justement de 1990. Et là aussi de ce processus un petit peu, hein, de cette grande machine ouest-allemande qui va s'abattre.
On appelle
sur
la colonisation, comme Helmut Kohl, hein, la colonisation.
Et du coup, pour vous dire très simplement les chiffres, dès le début des années 90, il y a 150 joueurs des grandes équipes de RDA qui sont rachetés. Donc, si vous voulez, il y a une saignée des équipes de RDA. Donc, tous ces gens vont être rachetés, notamment par un certain nombre de clubs, pas tous, de l'Ouest. Donc, du coup, vous voyez bien ce qui peut rester. À partir du moment où vous rachetez avec l'argent de l'Ouest les meilleurs. Et puis, il faut se rappeler qu'en RDA, on n'a pas d'argent. Les gens n'avaient pas d'argent, évidemment, puisque c'est une économie socialiste. Donc, c'est comme pour les entreprises. Hein, on ne peut pas mettre facilement beaucoup d'argent sur la table. Donc, du coup, effectivement, le football est-allemand a été en partie absorbé. C'est ce qui explique le fait qu'il n'y a aucun résultat de premier plan dans le football est-allemand. Alors, ce qui est même fou à ce moment-là, ce qu'on raconte, c'est qu'il y a même un certain nombre de fans est-allemands qui sont allés adhérer à des groupes d'équipes d'Allemagne de l'Ouest, parce que du coup, les leurs, elles n'avaient plus grande, notamment Mönchengladbach, hein, qui était un club très populaire à l'Est, ben voilà, on est allé adhérer, comme fan, même, à des clubs de l'Ouest. Donc, vous voyez, il y a une forme de vide, hein, qui s'est créé dans le football, et évidemment, et ça reste. Et là aussi, on l'a vu, dans les discussions qu'il y a en ce moment, en Allemagne, hein, il y a des discussions aussi Est-Ouest, et ces choses-là continuent à être une forme de douleur, hein, pour un certain nombre de présidents de clubs de l'Est ou pour un certain nombre de fans, parce que ça a été vraiment une saignée de ce point de vue-là.
Nicolas, on peut dire, on peut lire que cette absorption de l'Est par l'Ouest peut aujourd'hui être en partie responsable des hauts scores de l'AFD en ex-Allemagne de l'Est, l'AFD qui est donc le parti d'extrême droite néo-nazi, qui cartonne entre guillemets en ex-Allemagne de l'Est. On dit que cette absorption, elle peut avoir un rôle, que ce sentiment d'être délaissé, d'avoir été humilié, ça peut opérer sur ce vote extrémiste. Est-ce que vous pensez ça? Vous êtes d'accord avec ça?
Bien sûr, je pense qu'une partie du ressentiment des Allemands de l'Est aujourd'hui, qui s'exprime en particulier par ce vote pour la droite extrême, est liée à ces années extrêmement dures. Je l'ai décrit pour le football, mais on pourrait le décrire évidemment pour mille autres situations, professionnelles, sociales, personnelles. Et d'ailleurs, beaucoup d'Allemands, encore, y compris des gens très responsables, par exemple le président du grand club de Berlin, FC Union, hein, le grand club de foot, il dit aujourd'hui, ce n'était pas une réunification, c'était une absorption. Oui. Il emploie le terme de prise de contrôle, ou alors une adhésion, il emploie le terme de Beitritt. Donc vous voyez, même des gens qui sont très importants dans le sport aujourd'hui ont quand même un rapport, de, en quelque sorte, hein, de ressentiment vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc c'est évident que ça joue un rôle. Il y a des sondages, alors moi je ne suis pas un grand fan des sondages, je ne pense pas qu'ils disent toujours grand-chose, mais il y a quand même un lien, c'est-à-dire que plus vous vous sentez un citoyen de seconde classe en Allemagne de l'Est, plus vous votez pour la droite extrême. Donc, vous voyez, le quand ressenti même. Est quand même assez, assez fort. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables politiques, y compris maintenant même des conservateurs qui disent il faut revenir sur ces années 90. Parce que tant qu'on n'aura pas fait un traitement pour donner une forme de reconnaissance ou au moins de discussion aux Allemands de l'Est, on risque d'être dans la situation qu'on connaît aujourd'hui avec une poussée d'extrême droite qui n'est pas seulement dans les urnes. C'est ça qui est dangereux aussi en Allemagne, qui maintenant s'exprime aussi par des violences politiques inédites. Hein, c'est la première fois qu'on a assassiné récemment un homme politique depuis 1945. Et c'était par quelqu'un d'extrême droite.
Oui, c'est effectivement important à souligner. Wieke Pedersen, à la fin de cette compétition en 91, en Espagne, il y a ce qu'on appelle une bourse au tricot, une bourse au maillot. Ça veut dire que tous les concurrents mondiaux viennent échanger leur maillot, hein, comme une sorte de fraternité. Et vous avez un petit peu honte, vous dites, on va pas y aller avec ce maillot avec l'aigle, là, franchement, c'est pas, oui, on n'y va pas. Mais vous y êtes allé, et qu'est-ce qui s'est passé, Wieke?
Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est vraiment allé
un peu à reculons
parce qu'on s'est dit personne ne voudra de ce vautour, c'est pas possible. Oui. Et ben si.
Maillot historique.
C'était, voilà. En plus, les maillots étaient cotés, donc plus un maillot avait gagné des médailles d'or, plus il était, il avait une grande valeur
dans l'échange.
Alors ceux des jumelles russes là que vous dessinez, est-ce qu'il a eu du succès?
Ah, c'était moche.
Il était très moche. C'était un vrai succès. Mais est-ce que vous aviez conscience que vous, j'imagine que non, je sais pas, mais que vous viviez un moment historique? Vous aviez 18 ans. Est-ce que vous aviez conscience de ça?
Quand même un petit peu, parce que c'était, oui, parce que. On a peut-être, dans la lecture, l'impression que je n'étais pas consciente de grand-chose.
Non, c'est pas vrai. C'est une sorte de vie adolescente.
Mais si, on a quand même senti qu'il se passait quelque chose hors norme. Même dans les résultats, on était très, très motivés. On avait vraiment envie de donner une bonne image aussi. Ça s'est bien passé.
Pour finir sur une note légère, Wieke Pedersen, vous aviez une mission secrète durant cette préparation, ce championnat du monde d'aviron. Quelle était cette mission secrète?
Alors, on avait avec ma meilleure amie Caro une liste des baisers. Et il fallait bien sûr partir au championnat du monde et à cette rencontre des Allemands de l'Est. Avec la mission d'en embrasser un.
Et oui, il fallait embrasser
une vraie réunification.
Une vraie réunification.
Pour voir si c'était la même chose.
Mais on ne dira pas la fin.
Non,
on ne dira pas la fin. Est-ce que la mission a été accomplie ou pas? On ne le dira pas. Mais je vous conseille de lire ce très beau roman graphique, cette bande dessinée dans le même bateau, signé Zelba, donc alias Wieke Pedersen, c'est chez Futuropolis, sur la réunification allemande. Extraordinaire récit. Et puis Urbex RDA, précipitez-vous sur l'Allemagne de l'Est, racontée par ces lieux abandonnés chez Albin Michel. C'est signé Offenstadt Nicolas, c'est excellent aussi. Merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien on commence avec une nouvelle historique et un big up à la Fédération Australienne de Football qui a annoncé cette semaine la signature d'un accord prévoyant que les footballeuses internationales gagnent autant que leurs homologues masculins. Alors les joueuses des Matildas, hein, comme on les appelle, comme Sam Kerr et Ellie Carpenter, vont donc empocher les mêmes sommes que les vedettes des Socceroos. Et comme eux, elles effectueront leurs déplacements maintenant à l'étranger en classe affaires. Eh oui. Alors cette annonce intervient après la signature il y a quelques mois d'un accord qui prévoyait que les footballeuses professionnelles australiennes gagneraient le même salaire minimum que leurs homologues masculins. Et là, c'est vraiment le choix des Socceroos de partager les revenus. Et le capitaine de l'équipe nationale australienne, Mark Milligan, a d'ailleurs déclaré que les femmes avaient obtenu ce qu'elles méritent. Voilà. Donc le reconnaître, c'est sport et on est bien d'accord.
Reste maintenant à espérer que cette initiative inspire toutes les fédérations nationales, à commencer par la France, par exemple.
Ça serait bien.
On continue avec un autre big up, Joy.
Et oui, on est en plein dans la saison des prix littéraires et je voulais revenir sur le Goncourt. Goncourt attribué à Jean-Paul Dubois. Pour tous les hommes ne pensent pas le monde de la même façon. Livre qui a paru aux éditions de l'Olivier, hein, on en a parlé. Alors pourquoi? Parce que Jean-Paul Dubois est un écrivain qui mérite toute sa place dans l'œil du tigre, Colin.
Et oui.
C'est un vrai amoureux du sport. Alors sa première réaction lorsque le jury du Goncourt d'ailleurs lui a remis son prix, ça a été de citer le footballeur britannique George Best. Il a dit « Je suis vraiment heureux d'être ici devant vous, flatté, mais je suis surtout heureux de me tenir debout. » Donc à noter que le sport tient souvent une place de choix dans les livres de Dubois, qui est un grand connaisseur et un fan de rugby. Alors que soit la plotte basque hein, dans Succession ou le hockey, via son personnage de Patrick Horton dans son dernier roman Couronné. Et puis Dubois, il pédale. Il disait notamment « Je fais du vélo tous les jours, entre midi et 13h, qu'il neige ou qu'il vente, comme un imbécile. » Car je déteste le vélo. Voilà, c'est tout Dubois. Et évidemment, Jean-Paul Dubois écrit, et il écrit admirablement bien. Voilà, c'est un Goncourt sportif complet, très mérité.
Oui, et Dubois a aussi écrit plusieurs papiers excellentissimes pour le journal L'Équipe. Voilà, Dubois, Goncourt décerné cette semaine à Jean-Paul Dubois. Quoi d'autre, Joy?
Eh bien, sinon, la star montante du cinéma, Timothée Chalamet, est apparue cette semaine à la télé américaine avec le maillot 2017-2018 de la SSE. Eh oui, de Saint-Étienne. Alors, c'était sur le plateau de l'émission Late Night with Seth Meyers. Et oui, le jeune comédien franco-américain, on le rappelle, de Call Me By Your Name, est fan des Verts. Voilà, c'était une brève.
Et oui, une brève, et c'est vrai que c'était incroyable de voir le maillot des Verts à la télévision américaine cette semaine. Quoi d'autre, Joy?
Eh bien, une histoire incroyable venue de Croatie, où un footballeur risque jusqu'à un an de prison pour avoir, accrochez-vous, tué une poule en plein match. Et oui. Alors c'était dimanche dernier. Nous sommes en plein match de foot, un match de foot semi-professionnel à Jelengrad, à l'est de la Croatie, quand soudain des poules font irruption sur le terrain. Alors les volatiles gambadent sur la pelouse et le match est interrompu. C'est pourquoi Ivan Gazdek, joueur de l'équipe haute de 23 ans, court après l'une des poules et lui assène un violent coup de pied. Il la fait voler par-dessus la clôture, tout plein de plumes, tout ça, vous voyez la scène, et la poule meurt. Voilà. Alors du coup, mercredi, l'ONG Amis des Animaux a dénoncé l'acte honteux et le lâche comportement du joueur envers un animal innocent qui est mort les os brisés dans la douleur. C'est ce que l'a dit l'asso.
La vidéo est très violente.
Ah oui, oui, mais d'ailleurs, en théorie, elle est censée être retirée, Colin.
J'en ai vu une, elle était très violente, la vidéo.
On ne les regarde pas.
D'accord.
L'association a annoncé qu'elle allait porter plainte pour acte criminel, le fait de tuer ou de torturer un animal. Donc Gazdek, qui se défend en disant qu'il n'avait pas l'intention de tuer la poule, mais seulement de l'éloigner du terrain, risque jusqu'à un an de prison. Alors décidément, si on pense à la finale de la Coupe du Monde qu'on a remportée, nous Français, dont l'emblème est le coq, on peut se dire que les gallinacés ne portent pas chance aux footballeurs croates.
C'est sûr. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel.
Eh bien, ça s'appelle Touché de Quentin Zution. C'est un roman graphique qui a paru aux éditions Paillographiques. Touché, c'est l'histoire de femmes qui se reconstruisent en fait grâce à la pratique de l'escrime. Donc, c'est une très jolie bande dessinée, Vraiment, Quentin Zution nous dresse le portrait de trois femmes victimes de violences conjugales, Nicole, Lucie et Tamara. Après avoir subi ces violences, chacune des femmes, c'est assez bien foutu, réagit différemment. Ça se voit dans leur pas d'escrime thérapeutique. Tamara, par exemple, elle attaque toujours la première quand Nicole étouffe dans sa tenue d'escrimeuse. Mais toutes ces femmes brisées se reconstruisent grâce au sabre ou au fleuret. Touché, c'est dessiné tout en douceur, grâce à des traits de pinceau vraiment savamment apposés sur les pages. Quentin Zution parvient à nous faire entendre la douleur, puis la reconstruction de ses sœurs d'armes, Leur credo, c'est vraiment être touché ou touché.
Donc, Touché de Quentin Zution, c'est chez Paillographique. Merci beaucoup, Joy.
Mais de rien.
Et à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 11e émission, notre saison 5 a été coachée, bien sûr, par l'incontournable H2M ce soir, Henri-Marc Mutel. Merci, Marco, assisté ce soir à la technique de Pierre Faucillon. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'œil du tigre, à Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en 1989, mais cette fois sur le Tour de France, une édition extraordinaire remportée par l'américain Greg LeMond. Mais que reste-t-il 30 ans plus tard de cette France de la fin des années 80? Réponse dimanche prochain dans l'œil du tigre. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.